tout au long du prononcé du jugement. En ce 25 septembre 2025, j'étais passé par des émotions contraires, pour ne pas dire contradictoires. Nous étions arrivés à l'heure dite avec Carla, il était 10h du matin, je ne connais hélas que trop bien le chemin entre mon domicile et le tribunal correctionnel de Paris, nous étions un peu en avance, une maladie chez moi. Nous avions dû patienter quelques minutes dans la voiture pour ne pas arriver trop tôt. Nous n'étions pas si tendus que l'on pourrait l'imaginer. Je savais que de toute façon, nous irions en appel, soit à la demande du parquet, soit à la nôtre. Dans mon esprit, c'est à ce stade que se jouerait la bataille essentielle. Mais je n'imaginais pas ce qui finalement arriva. À l'intérieur du tribunal, devant la chambre correctionnelle, nous fûmes accueillis par un véritable mur de caméras, de photographes, de journalistes. Combien étaient-ils ? Plus de 100, au minimum, peut-être 150. À la corrida, le moment de la mise à mort est toujours le plus attendu. Il en allait de même ici. Je sentais dans mon dos l'excitation mauvaise chez la plupart d'entre eux. C'était une foule de journalistes et de commentateurs. La foule n'est jamais humaine. Elle est toujours grégaire. La salle d'audience était bondée. Pas un espace ne se trouvait inoccupé. Le public était bruyant et dissipé. Quand nous entrâmes, le silence se fit instantanément. Je sentis ces centaines de visages braqués sur nous. Il y avait plus de 200 personnes entassées à l'intérieur. Je me sentais observé à chaque seconde. Les regards me suivaient en continu, observaient chacune de mes réactions. J'essayais d'afficher une constance impassible. Mon cœur s'emballait, mais je n'en montrais rien. Car là, les enfants, mes frères, ma sœur, quelques proches amis étaient assis dans la salle, silencieux, amicaux, inquiets, attentifs. Le tribunal est entré. La présidente, concentrée et inexpressive, s'apprêtait à rendre le jugement. Nous étions partis pour pas moins de 2h30 de lecture du délibéré. J'avais le temps de passer par toutes les émotions possibles et imaginables. Et ce fut le cas. Elle commença par prévenir qu'il y aurait des relaxes et des condamnations. Les premières me concernaient et provoquaient en moi un soulagement indicible. Durant près de 2 heures, l'exposé de la présidente faisait s'effondrer des pans entiers de l'accusation. De mémoire, pas d'argent libyen dans la campagne. Pas d'enrichissement personnel de Nicolas Sarkozy. Pas d'argent libyen dans son patrimoine. Pas de preuve du prétendu financement pourtant promis par les Libyens. Pas de pacte de corruption sous la tente avec Kadhafi en 2005. Pas de remise d'espèces à Beauvau par Ziad Takeddine. Pas de caractère anormal de la visite de Kadhafi à Paris en décembre 2007, au regard de ses visites identiques dans d'autres pays européens. Pas de différence entre la politique de la France à l'égard de la Libye sous Nicolas Sarkozy et celle sous Jacques Chirac. Et bien sûr, le plus probable est que le document publié par Mediapart soit un faux. C'est peu dire que j'étais soulagé. Cela correspondait point par point à tout ce que je n'avais jamais cessé d'affirmer depuis 12 ans et le début de la procédure. D'ailleurs, pour confirmer ce sentiment, elle annonça que le trésorier de ma campagne, Éric Woerth, était relaxé du délit de complicité de financement illégal. Avec cela, comment aurais-je pu m'inquiéter de la suite des événements ? Mes avocats restaient concentrés, avec l'expérience qui était la leur. Ils préféraient attendre la fin des réjouissances, comme ils avaient raison. Puis tout à coup, le ton de la présidente a changé. Il était assez neutre pendant les 2 premières heures, où elle m'avait souvent regardé. Il est soudain devenu plus dur et plus mécanique. Elle fixait désormais ses notes et ne me regardait plus. J'ai senti un changement dans son narratif. Je ne saisissais plus trop bien la logique de ce qu'elle disait. C'était comme si tout avait été blanc et que soudainement tout devenait noir. Il n'y avait plus de cohérence. Elle est revenue sur le délit de corruption passive, dont j'avais été relaxé. Mais cette fois-ci pour affirmer que j'étais coupable d'une association de malfaiteurs en vue d'une corruption passive. Charge qui avait été ajoutée in extremis par les juges d'instruction à la fin de leur enquête, comme une voiture balai venant au secours d'un travail qui n'avait abouti à rien de conclusif. Il était établi, affirma-t-elle, que deux de mes collaborateurs avaient rencontré le beau-frère de Kadhafi, Abdallah Senoussi. Elle affirma alors que le sujet de la discussion ne pouvait avoir été que le financement de ma campagne, sans le moindre élément de preuve, sur la base d'une pure hypothèse assumée comme telle. Et de surcroît, ajouta-t-elle, le soin particulier que mes deux collaborateurs avaient mis à affirmer qu'ils ne m'avaient pas tenu informé de ces rencontres était bien la preuve, selon le tribunal, qu'ils l'avaient fait. Comment, avec de tels raisonnements, démontrer son innocence ? J'étais donc condamné par le tribunal pour avoir prétendument laissé mes collaborateurs envisager de solliciter un financement, pure hypothèse, vigoureusement contesté par ces derniers et ne reposant sur aucun élément matériel du dossier. Financement dont, par ailleurs, le tribunal reconnaissait qu'il n'existait pas. Et la sanction tomba, 5 années de prison ferme. Tout cela n'avait aucun sens, si ce n'est celui de ne pas désavouer totalement les juges d'instruction et le parquet national financier. Mais je n'avais pas tout entendu, car le meilleur était pour la fin. La présidente annonça, « Compte tenu de la gravité des faits, vous irez en prison. Mais comme vous vous êtes toujours présenté à toutes les convocations de la justice, ce qui était vrai, vous serez convoqué dans 15 jours par le parquet national financier qui vous indiquera la date de votre emprisonnement et le lieu. » En prenant cette décision, le tribunal me privait de l'effet suspensif normalement attaché à l'appel. Je reçus la décision du tribunal comme un violent coup de poing dans la figure. J'étais debout, seul, face au tribunal, au parquet, à la greffière. Tous me scrutaient. J'avais envie de hurler à l'injustice, à la folie d'une telle décision, à la honte de tout ce que cela représentait. J'ai serré les poings, encaissé, je suis demeuré impassible, mes jambes m'ont porté jusqu'à ma chaise, j'avais tenu, c'était déjà une petite victoire. Au moment de l'annonce de mon emprisonnement, la salle a poussé un cri, ce n'était pas de la joie, ni de la peine, juste de la stupéfaction. Les journalistes eux-mêmes ne comprenaient plus. Toute la matinée, ils avaient commenté l'accumulation de bonnes nouvelles pour moi et survenait ce coup de théâtre. Personne ne comprenait. Il n'y avait ni logique ni cohérence. Puis le tribunal s'est retiré. Je me suis levé. Je suis allé voir mes avocats qui étaient sonnés comme chacun de nous. Je leur ai dit de ne faire aucune déclaration car c'était à moi désormais d'affronter les médias. Carla était à mes côtés, comme toujours solide au moment du choc. Elle me demanda si je savais ce que je voulais dire. J'ai répondu oui, mécaniquement. En vérité, je n'en avais aucune idée à ce moment précis. J'ai vraiment dû improviser. J'appelais Guillaume Didier, mon ami, membre précieux de mon équipe, et lui demandais de prévenir les journalistes que j'allais prendre la parole et de m'avertir quand ils seraient prêts. Il revint 2 minutes plus tard pour me dire « Vous pouvez y aller. Tenez-vous juste là où se trouve un scotch noir sur le sol, marquant l'emplacement où il vous faudra prendre la parole. » Je n'avais pas eu une seconde de calme pour préparer mon propos ou même simplement y penser. Mais l'injustice que je ressentais était si forte, la pression si grande, que je n'ai pas douté une seconde. La tempête était là, ce n'était pas le moment d'avoir des états d'âme, des scrupules ou même la moindre hésitation. « La haine n'a pas de limite » fut la première phrase qui sortit de ma bouche. Carla était toujours à mes côtés, forte et indéfectible. Je la sentais inquiète de me voir ainsi prendre la parole en direct et sans la moindre préparation. Mes fils étaient là, solides, comme un pack de rugby. Nous faisions face ensemble, nous refusions de baisser la tête ensemble, en revoyant les images, en écoutant certains commentaires, en recevant les témoignages de la rue, au hasard des rencontres. J'ai été fier de cette famille que nous constituons. Cette fratrie recomposée, comme tant d'autres dans le pays. qui donnait une telle image de force et d'unité. Mes fils, ma fille, mon beau-fils se moquaient de ne pas avoir le même père ou la même mère. Ils n'étaient pas des demi-frères ou des demi-sœurs. Ils étaient des membres de la même famille décidés à faire front à l'injustice. J'avais besoin d'eux, ils étaient là. Au cœur de cette tempête, je recevais cette épreuve comme une grâce qui nous soudait, nous renforçait et nous faisait comprendre combien nous avions besoin les uns des autres. Les 3 semaines entre la sanction prononcée par le jugement et l'incarcération furent un moment étrange, comme suspendu de ma vie. Au fond, les Français n'avaient pas encore réalisé que je devrais me rendre à la prison. Cela demeurait de l'ordre du virtuel. C'était tellement inconcevable. Il en allait tout autrement pour notre famille. Julia était rentrée de l'école en larmes. Elle avait compris. Et cela la bouleversait. Je devais me faire à l'idée de l'incarcération, désormais certaine, mais dont je ne connaissais pas la date. Un étrange parcours m'était imposé, qui débutait par un rendez-vous avec le procureur de la République financier, mon accusateur. Je ne pouvais m'empêcher de trouver pénible cette étape procédurale. Le jour fixé, j'étais suivi dès le départ de mon domicile par 4 motos de photographes et de caméramans qui me traquaient. À chaque feu rouge où ma voiture s'arrêtait, les flashs crépitaient. J'arrivais à l'heure dite dans les bureaux du tribunal où m'attendait le procureur Jean-François Bonnert, accompagné d'une adjointe et d'un des magistrats du parquet présents lors du procès. L'ambiance était glaciale. J'étais entouré de Christophe Ingrin et de Jean-Michel Darrois. Le procureur était poli, mais visiblement pas à son aise. Il m'annonça qu'il allait se contenter de donner lecture d'un procès-verbal préalablement rédigé. C'était sobre, il ne surjoua pas, n'en rajouta pas, et conclut que je devais être emprisonné le 21 octobre à la maison d'arrêt de la santé au quartier d'isolement. Il ne me regardait pas dans les yeux, tant il était concentré et attaché à lire son texte. Son adjointe était aimable et humaine. Le procureur présent à l'audience ne prononça pas une parole, mais me fixait continuellement, avec froideur et une pointe de mépris. En retour, je ne le regardais ni ne le considérais. Je veillais à ignorer sa présence. Je me demande encore ce que j'avais bien pu lui faire. Le comportement de la procureure adjointe était d'une toute autre nature. Elle prit la parole avec tact et mesure, ce qui tranchait avec son collègue. « Je dois vous poser des questions très intrusives avant votre incarcération. » J'étais sensible à son humanité. Je lui indiquais que je me prêtais à la procédure sans qu'il n'y ait aucune difficulté à poursuivre. Elle me demanda d'abord si en prison, il y avait un risque que je sois en manque. En un mot, il s'agissait de savoir si je me droguais. J'ai souri. « Madame, vous devez savoir que je n'ai jamais fumé une cigarette, jamais bu une goutte d'alcool. » Jamais ingéré une quelconque substance toxique, ni même pris un demi-comprimé de somnifère, y compris pour dormir en avion. Je n'avais donc pas besoin que l'on prévoie mon sevrage. Elle nota scrupuleusement mes réponses, puis elle m'interrogea sur d'éventuelles tendances suicidaires. Elle faisait son travail comme elle le pouvait, suivant sans doute le protocole habituel en la matière. J'essayais de l'aider en lui indiquant que jusqu'à mes 70 ans, la réponse était clairement négative, mais que j'ignorais, comme tout un chacun, comment je réagirais à l'enfermement. Que pouvais-je dire d'autre? Enfin, elle s'enquit de ma santé. Je lui répondis qu'à ma connaissance, j'étais en pleine forme et que je n'avais pas l'intention d'utiliser mon âge ou mon état physique pour tenter d'échapper à la prison, aussi injuste soit-elle. Cette partie de l'entretien se déroula dans une ambiance embarrassée mais humaine, presque bon enfant. Je percevais cependant que le procureur de la République financier était gêné. Il réalisait sans doute ce qu'il était en train de faire et l'inadéquation complète de cette mesure à ma situation. La séance touchait à sa fin quand j'ai souhaité prendre la parole. J'y fus autorisé. Je me suis alors adressé directement à Jean-François Bonnert. J'indiquais que je voulais lui dire bien en face ce que je pensais, ne souhaitant pas que mes avocats le fassent à ma place. « Je vous regarde bien droit dans les yeux. À deux reprises, vous m'avez personnellement mis en cause dans les médias. C'est sans précédent. Ce que vous avez fait était choquant et mensonger. Maintenant que je suis devant vous, je veux que vous sachiez que vous m'avez blessé. Un jour, la vérité finira par triompher. L'histoire retiendra nos noms, à vous comme à moi. Vous serez le premier responsable d'un scandale judiciaire sans précédent, moi j'en serai la victime. À tout prendre, je préfère être de mon côté que du vôtre. » Il ne répondit rien. Que pouvait-il dire ? C'était tellement plus facile de m'attaquer par médias interposés que de le faire alors que j'étais de l'autre côté de la table. Le face-à-face ne dura que quelques minutes, mais l'ambiance était considérablement tendue. Je ne voulais pas faire un incident qui aurait pu immédiatement être retenu contre moi. Mais je tenais à marquer le coup. Comment un magistrat avait-il pu décider de mener une véritable campagne médiatique contre moi avant même l'ouverture du procès ? J'en ai déduit qu'il avait dû avoir bien du mal à tenir ses troupes et qu'il avait dû agir ainsi pour leur donner des gages. Mais il n'était pas obligé d'en rajouter à ce point en affirmant au micro d'une grande radio à deux reprises sa conviction que j'étais coupable. En tout cas, j'ai pu constater cet après-midi-là, alors que nous étions dans un dialogue direct, qu'il était devenu moins prolixe et peut-être aussi moins vaillant, puisqu'il ne répondit rien. Pour être parfaitement honnête, je dois reconnaître avoir été sensible au fait qu'il ne rajoute pas, tout au long de cette réunion si désagréable, et ne reviennent pas sur les 4 mois d'audience qui nous avaient opposés. Je notais d'ailleurs que le parquet n'était pas non plus satisfait du jugement, puisqu'il en avait fait appel de la totalité. Il est vrai que le tribunal lui avait infligé un flagrant désaveu en balayant nombre de thèses de l'accusation, ce qui était une bonne chose dans la perspective du procès en appel. Je quittais le parquet national financier assez perplexe. Je venais d'être convoqué à la prison de la santé pour le 21 octobre. J'avais 10 jours à attendre. À quoi correspondait exactement cette comédie ? Si je devais aller en prison, je préférais que cela se fasse vite. Je devais essayer dans cet intervalle, pour ma famille comme pour mon équipe, de mener la vie la plus normale possible. Continuer mon sport quotidien, aller au bureau, déposer Julia à l'école, tous ces plaisirs dont j'allais bientôt me trouver privé. Autant en profiter tant que c'était possible. Durant cette période, je vécus un moment particulièrement émouvant. 2 jours seulement après ma condamnation à 5 années de prison, je me suis rendu au Parc des Princes. J'avais promis 6 mois auparavant à un jeune garçon de 15 ans que j'avais rencontré au service pédiatrique de l'Institut Gustave Roussy, où il soignait un cancer particulièrement agressif, que je l'emmènerais avec moi au Parc des Princes pour voir un match du PSG dès qu'il aurait la force de s'y rendre. J'avais donné ma parole, ignorant ce que serait le résultat du 25 septembre. Il allait mieux depuis quelques semaines, nous avions donc fixé notre rendez-vous pour la date du 27, soit 2 jours après ma condamnation. Chacun peut imaginer que je n'avais aucune envie de pénétrer dans un stade bondé de 46 000 personnes juste après la déflagration de ma condamnation. Dans ce genre de situation, la réaction naturelle est plutôt celle de se faire discret, voire de disparaître, au moins pour un temps. Cependant, je m'étais engagé à réaliser le rêve de ce jeune garçon. Il s'en était fait une joie. Il m'avait écrit pour me dire qu'il viendrait avec sa mère et son frère. Je n'ai pas eu le courage de le décevoir en annulant notre rencontre et donc ma promesse. J'allais devoir affronter la foule, les photographes, les médias. Je devais m'exposer en apparaissant publiquement pour ce match de gala. Je me demandais avec quelque inquiétude comment les spectateurs du Parc des Princes allaient m'accueillir. J'étais certes un habitué, mais comment prévoir la réaction d'une foule, spécialement dans un stade de football ? J'arrivais donc sur la pointe des pieds. À peine avais-je pénétré dans l'enceinte du stade que des spectateurs commencèrent à m'applaudir. À se lever en masse, pour venir me saluer, à hurler des « Tiens bon, Sarko, on est avec toi, bats-toi !» Je n'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles. Pas un seul sifflet, pas une seule insulte, juste de la sympathie, du soutien, de l'amitié, parfois même de l'amour. J'étais rasséréné, la surprise avait été plus qu'heureuse, ce qui promettait d'être une épreuve se révélait être un réconfort. Je partis tôt le lendemain matin pour pratiquer mon footing quotidien. Et là encore, la surprise fut au rendez-vous. Une heure durant, ce ne fut qu'un long chemin d'applaudissements et d'interpellations amicales. Plusieurs conducteurs arrêtaient leur voiture, baissaient leur vitre pour exprimer leur indignation face à mon incarcération prochaine. Je n'avais jamais connu un tel mouvement tout au long de ma longue carrière politique. C'était impressionnant et, pour tout dire, assez bouleversant. Ces soutiens populaires spontanés m'ont beaucoup aidé à tenir durant cette période intermédiaire qui aurait dû être si stressante. Je me sentais au cœur de l'actualité, entouré d'amour et d'amitié, mais dans l'attente d'entrer pour la première fois de ma vie en prison. Et il y avait de quoi être déstabilisé. Le lendemain soir, nous avions décidé avec Carla de profiter d'une de nos dernières soirées de liberté ensemble pour aller dans une brasserie à proximité de notre domicile. Je risquais d'être privé de restaurant quelque temps. Alors autant profiter. C'était un samedi en soirée. Le lieu était comble. Carla et moi étions seuls dans notre monde, cherchant à nous préparer du mieux possible à ces journées qui arrivaient et qui promettaient d'être difficiles. Les clients respectaient notre intimité. Nous fûmes parmi les premiers à quitter la grande salle de restaurant et à commencer à traverser l'une des terrasses. Et il y avait plusieurs dizaines de clients. Alors que nous marchions vers la sortie, la totalité des personnes présentes se levèrent spontanément et nous applaudirent à tout rompre. Le personnel du restaurant s'associa à ce mouvement. J'étais en train de gagner en popularité grâce à ma prochaine entrée en prison. Le mot « surprenant » serait faible pour décrire ce que je vivais. Il me faudrait prendre le temps de la réflexion dans l'avenir pour analyser ce phénomène qui se traduisait de surcroît par un afflux de courriers de soutien qui se comptait par plusieurs centaines chaque jour. Je n'avais pas reçu autant de lettres alors que j'étais président de la République. Le phénomène était en train de tous nous dépasser.